Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon, mais aussi Hélène Lefrançois, Margot Leridon, Bertie Bourdon, Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Pierrick Monsigny. Troisième volet de notre série consacrée aux aspirations démocratiques à travers le monde, toujours dans cette opération spéciale sur France Culture 1989-2019, 30 ans après la chute du mur, l'histoire continue. Après les mobilisations du côté de Hong Kong pour la défense de ce modèle libéral, après la colère des électeurs russes contre les velléités du pouvoir de contrôler les prochaines élections, place ce matin à la rue arabe et à ces millions de civils qui, de Khartoum à Alger, osent défier le pouvoir des militaires.
J'annonce en tant que ministre de la Défense la chute du régime et le placement en détention dans un lieu sûr de son chef.
Malgré la chute du régime de Béchir, on préfère rester sur nos gardes. Car les services de sécurité, ils venaient et ils tentaient de nuire aux manifestants.
Cela leur montre que nous sommes patients et que nous sommes déterminés à obtenir ce que nous voulons. Personnellement, je suis prêt à rester jusqu'à ce qu'on annonce un gouvernement civil et que l'armée l'accepte.
Aujourd'hui, nous avons respecté la volonté nationale. Personne n'a perdu ou gagné. Dans cet accord, l'intérêt du pays est au-dessus de tout.
C'est un immense espoir qui est venu du Soudan le 17 août dernier. En effet, alors que l'armée semblait avoir repris la main sur le mouvement de révolte à l'origine de la chute du dictateur Omar el-Béchir le 11 avril dernier, civils et militaires sont finalement parvenus à se mettre d'accord sur une transition démocratique. Une victoire pour les opposants, même si on peut penser que la transition sera longue et que les militaires feront tout pour ne pas complètement lâcher le pouvoir. Deux jours plus tard, à quelques centaines de kilomètres de là, en Algérie, le Front des Forces Socialistes Algériens appelait les autorités à s'inspirer de l'exemple soudanais et à ouvrir elle aussi des négociations sur une transition démocratique. Voici tout juste 6 mois, en effet, que les Algériens descendent dans les rues chaque vendredi avec ce même mot d'ordre, la fin du système et le transfert du pouvoir aux civils. De Khartoum à Alger, en passant par le Caire, les armées sont des institutions puissantes qui n'entendent pas partager le pouvoir. Alors la donne serait-elle en train de changer face à la détermination de la rue? Combien de temps les généraux pourront-ils résister face à ce désir de démocratie? Faut-il voir dans ces mouvements actuels des répliques des printemps arabes de 2011 que l'on croyait pourtant condamnés à l'enlisement, peut-être à l'exception de la Tunisie dont on parlera aussi? Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles on va se pencher. Bonjour Marc Lavergne.
Bonjour.
Marc Lavergne, pardon. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue, directeur de recherche au CNRS et puis vous êtes un spécialiste du Soudan. On va en parler avec vous. À nos côtés, en duplex de Rouen, Kader Abderrahim. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po. Vous êtes auteur notamment d'un livre intitulé Géopolitique du Maroc, mais c'est beaucoup de l'Algérie dont on parlera avec vous, Kader Abderrahim. On va commencer avec le Soudan. Marc Lavergne, si vous le voulez bien, on est 4 mois après la chute de Omar el-Béchir. On a donc une nouvelle étape qui a été franchie puisqu'on a cet accord qui a été signé entre les militaires et les civils. La semaine dernière, on a un nouveau Premier ministre qui a été mis en place, Abdallah Hamdok. Il va annoncer là maintenant, c'est aujourd'hui, hein, c'est dans les heures qui viennent, un gouvernement. Est-ce que les manifestants pro-démocratie sont en passe de gagner leur pari?
Oh, je crois qu'on en est loin.
Et de faire advenir la démocratie.
On est arrivé à un point d'équilibre entre l'armée et les civils, et donc les manifestants. Mais ce point d'équilibre n'est peut-être pas très solide. C'est peut-être conçu de la part de ceux qui l'ont élaboré comme un moment d'apaisement, un moment de stabilisation, pour arriver à une formule définitive.
En soi, vous parlez de point d'équilibre à propos de l'accord que j'évoquais?
De l'accord et d'une manière générale, de la constitution du Conseil souverain qui a été mise en place il y a très peu de temps, et puis de ce Conseil des ministres qui va être annoncé tout à l'heure. Je crois que on n'est pas encore dans la consolidation d'une situation qui serait désormais basculée en faveur des civils. Loin de là, l'armée, au contraire, on peut envisager les choses différemment, c'est-à-dire se dire que pour la première fois, l'armée est considérée comme légitime à la tête de l'État, hein, puisque ce n'était pas le cas avec le régime antérieur, si vous voulez, d'Omar al-Béchir, qui avait certes essayer de légitimer son pouvoir pendant 30 ans, mais en réalité, il a été démis et considéré comme quelqu'un de qui passe dans la poubelle de l'histoire. Et aujourd'hui, ce sont les militaires qui ont obtenu des civils soudanais la légitimation de leur pouvoir, leur main mise sur l'appareil d'État. Et en tout cas, le chef de l'État est un militaire et les militaires gardent les deux ministères principaux à leurs yeux, c'est-à-dire l'intérieur et la défense. C'est les deux militaires régaliens, si vous voulez, les deux ministères régaliens au Soudan aujourd'hui.
Quand je vous entends, je comprends qu'en réalité, ce sont les civils qui ont fait des concessions.
Ah parce oui, que tout
ce, à qui,
fait.
Ce qui apparaît, moi, dans ce que je voyais, c'était précisément que les civils avaient quand même gagner quelque chose. Mais non, ce que vous me dites, c'est que ce sont des concessions des civils.
Il y a une aspiration démocratique, sans aucun doute, au Soudan de la part de la rue, qui a servi de socle à cette reconnaissance par les militaires pour des raisons pratiques, d'opportunité d'une présence de civils au sein de l'appareil d'État, mais charge à eux de rétablir la situation économique pour l'essentiel, ce que les militaires ne savent pas faire.
Vous nous rappelez peut-être en quelques mots ce qu'il y a exactement dans cet accord du 17 août, et puis aussi qui là est ce personnage qui est apparu à Abdallah Hamok, qui est donc le chef du gouvernement, qui va devoir coudre avec beaucoup de minutie la composition de ce gouvernement.
Oui, alors il y a eu une déclaration constitutionnelle qui insiste sur le droit des femmes, qui insiste sur l'égalité des Soudanais, etc. Il y a beaucoup d'articles qui ouvrent la porte à une démocratisation, mais il n'y a pas les moyens pour mettre en œuvre cette démocratisation. Et je pense que les militaires qui eux-mêmes ont un passé, ce sont des gens, des officiers supérieurs qui sont intervenus à la fois au Darfour, mais dans les monts Nouba, au Nil Bleu, dans toutes les guerres civiles qui se déroulent au Soudan et qui sont aujourd'hui apaisées provisoirement, mais dont le problème, le sort n'est pas réglé, eh bien, ces militaires ont accepté, pour certains d'entre eux, avec une certaine sincérité, mais pour la plupart, sans doute, avec il y a une solution d'attente, puisque alors ce que contient l'accord, c'est un partage du pouvoir, c'est dans le temps la mise en place d'une structure qui va durer pendant 21 mois avec une direction militaire et ensuite 18 mois de période de transition toujours avec un dirigeant civil. Ça nous envoie à dans 3 ans avant la fin de cette transition. Alors on peut considérer que c'est quelque chose de tout à fait raisonnable de penser qu'il faut remettre à plat toute la société, l'économie et les institutions soudanaises. Mais en fait, je pense qu'il y a des arrière-pensées qui sont que d'ici 3 ans, l'armée aura repris le pouvoir. C'est un peu le sens de tout ce qui se passe en ce moment, me semble-t-il. L'histoire n'est pas écrite, bien entendu. Mais il y a d'autres forces en jeu que ce duel entre l'armée et les civils. C'est-à-dire qu'il y a une troisième force.
Laquelle?
qui sont des mercenaires, des gens qui sont mus uniquement par le désir de piller et qui n'ont aucun sens de l'État, qui viennent de régions périphériques du Soudan, à l'intérieur du Soudan ou à l'extérieur des frontières, du Niger, du Tchad, etc., de tribus, en déshérence, qui sont recrutés par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis pour faire la guerre au Yémen. Et leur chef est le numéro 2 de cette nouvelle structure, de ce nouvel État qui se met en place, c'est-à-dire M. Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemeti, qui est le véritable homme fort aujourd'hui de ce régime et qui, lui, est un criminel de guerre, coupable de crimes de toutes sortes au Darfour, lui et ses troupes. Donc ce sont des gens qui attendent
leur... C'est lui qui aujourd'hui domine cette transition. Cet homme-là, c'est en gros le commandant de l'une des plus puissantes milices arabes du Darfour pro-gouvernemental qu'on appelle les Janjaweed.
Oui, les Janjaweed qui sont devenus les forces de déploiement rapide, hein, si on traduit en français, qui sont l'émanation des services de sécurité de l'ancien régime, mais qui perdurent toujours en sous-main. Et donc, ce monsieur qu'on appelle Hemeti, hein, on donne souvent des surnoms aux personnages importants au Soudan, eh bien, Hemeti, lui, est financé et a fait sa fortune à la fois grâce à l'Arabie Saoudite qui paye ses mercenaires, et par les mines d'or qu'il contrôle au Darfour et par le trafic des migrants aussi qu'il contrôle. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, qui, ce sont des gens de sac et de corde, et il est en embuscade, je dirais, derrière le président en titre, monsieur Al-Burhan, le général Al-Burhan, et aussi certainement derrière le premier ministre que vous avez évoqué, hein, Abdallah Hamdok, qui lui est un civil, mais lui c'est plus une figure, je dirais, emblématique de cette bureaucratie onusienne. Il a fait sa carrière. Il a
eu des engagements. C'est un ancien économiste de l'ONU, oui.
C'est ça. Mmh. Voilà. Donc, on sait ce que ça veut dire, puisque en Afrique, c'est le genre de personnage qui est souvent pris pour mettre à la tête des États. On le voit en Côte d'Ivoire avec monsieur Alassane Ouattara. Mais en réalité, c'est quelqu'un dont on peut se demander quel pouvoir il aura réellement, et est-ce que c'est lui qui sera à la manœuvre. C'est un quelqu'un qui a un passé politique, hein. Il a été militant communiste comme beaucoup de jeunes Soudanais, ce qui est une particularité d'ailleurs du pays, mais on peut se demander si comment les militaires vont le laisser agir. Il est là pour son carnet d'adresses, il est là pour aller chercher de l'argent à l'étranger.
Kader Abderrahim, on va peut-être essayer de faire un jeu de comparaison avec l'Algérie. Je le disais dans mon introduction tout à l'heure, le Front des Forces Socialistes Algériens a appelé justement à s'inspirer de l'exemple soudanais et à ouvrir enfin des négociations et cette transition démocratique. Sauf que quand j'entends Marc Lavergne, je me dis qu'en réalité, la transition démocratique du côté du Soudan, elle n'aboutira peut-être pas à ce que l'on espère, et que finalement, l'armée va continuer de dominer le paysage politique. Quand on regarde du côté de l'Algérie, on est un petit peu dans la même situation. Jusqu'où est-ce que la comparaison peut tenir, Kader Abderrahim ?
Oui, vous avez raison d'être prudent. C'est vrai que comparaison n'est pas raison et que les situations sont extrêmement différentes, à la fois pour des raisons historiques et dans des contextes sociaux qui sont aussi très différents. Je crois qu'il est important à ce stade peut-être de rappeler le contexte historique dans lequel s'est forgée l'alliance au Soudan entre les militaires et les islamistes de Hassan Tourabi dans les années 90, et c'était un contexte très différent de celui que nous vivons aujourd'hui. Mmh. En Algérie, nous n'avons pas vécu cette situation, bien au contraire, puisque les militaires ont combattu depuis le début de leur création jusqu'à la guerre des années 90 les islamistes pour éviter de leur donner un pan de pouvoir, quel qu'il soit, même si ce pan de pouvoir était gagné légitimement par le passage des urnes. Donc on voit que les situations sont très différentes, on voit également que les enjeux sont très différents, mais qu'au bout du compte, les aspirations des sociétés convergent, puisque je crois qu'il est important de souligner que, en réalité, la peur a cédé la place à l'espoir, et que c'est ce que nous sommes en train de vivre, même si nous sommes dans des situations de blocage, voire dans le cas de l'Algérie, d'impasse, parce qu'au contraire du Soudan, en Algérie, il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a plus d'interlocuteur. Avec qui l'opposition peut-elle discuter ? Avec qui les Algériens peuvent-ils entreprendre un dialogue ? Avec les militaires ? Avec les civils, lesquels c'est extrêmement difficile. Alors qu'au Soudan, on a une force politique structurée dans l'armée qui, elle, a mené les négociations, alors qu'en Algérie, nous sommes dans une situation de blocage et d'impasse totale.
On redétaillera évidemment la situation en Algérie, mais il y a un autre parallèle que je voudrais vous proposer l'un et l'autre. On va commencer avec vous, Kader Abderrahim, et puis on poursuivra avec vous, Marc Lavergne. C'est l'Égypte, évidemment. L'Égypte, après la chute de Moubarak, des élections démocratiques, qui voit la victoire de Mohamed Morsi, issu des Frères musulmans, et puis aujourd'hui, et puis ensuite une nouvelle révolte populaire, l'armée qui reprend le pouvoir, et aujourd'hui un président qui, évidemment, issu des rangs de l'armée, a restauré un pouvoir, on va dire, totalement verrouillé, pour pas dire autre chose. Est-ce que là aussi, l'Égypte pourrait, malheureusement, j'allais dire, pour le Soudan, être un pays... je recommence. Est-ce que le Soudan pourrait vivre finalement ce scénario égyptien que je viens de rappeler brièvement, Kader Abderrahim ? Il faut le craindre ?
C'est possible. On ne peut écarter aucune hypothèse. Ça fait partie des hypothèques qui pèsent sur la situation au Soudan, compte tenu de l'encombrant voisin qui est devenu l'Égypte, avec une situation d'implosion interne totale et un morcellement du pays, avec des groupes terroristes qui contrôlent maintenant le Sinaï, avec des groupes terroristes qui sèment la terreur dans le pays. Et c'est une situation un peu ubuesque, parce que ça me rappelle d'ailleurs ce que les arguments qu'utilisaient les généraux algériens dans les années 90 lorsqu'ils ont déclenché la guerre. Et ils disaient, on ne peut pas permettre que les islamistes accèdent aux affaires, parce que sinon on perdrait tout. Si ces armées sont tellement puissantes, si elles contrôlent à ce point la société et l'appareil d'État, pourquoi auraient-elles peur ? Après tout, pourquoi ne pas laisser les islamistes faire la démonstration, admettons, hein, c'est une hypothèse, de leur incapacité à gérer et ensuite intervenir ? Là, on voit qu'ils le font avant, en amont, et donc c'est parce qu'ils ont surtout des prébendes et des privilèges à sauvegarder et à préserver, et que je crois que c'est là qu'il faut rechercher les principales raisons des situations dans lesquelles nous sommes.
Marc Laverne, le Soudan, un scénario à l'égyptienne, c'est-à-dire en gros une parenthèse démocratique et puis ensuite le retour d'un régime militaire. D'une certaine manière, ce serait la répétition de l'histoire, parce que au début des années 80, il y a aussi cette parenthèse démocratique qui finalement s'achève avec un coup d'État et l'arrivée d'Omar el-Béchir.
Oui, les comparaisons sont tentantes, hein, effectivement, mais je crois que la proximité entre les deux pays néglige le fait que ce sont des sociétés politiques très différentes, l'armée a une place très différente. Les Égyptiens, par exemple, n'ont jamais eu d'expérience démocratique. Hein. L'armée a toujours régné depuis 1952, et avant c'était d'autres...
Sauf pour l'élection de Morsi.
Sauf pour cette année de l'élection de Morsi, effectivement. Hein, mais je pense que ça ne constitue pas une expérience politique comparable à celle du Soudan. Le Soudan est une société politique très sophistiquée, finalement, depuis l'indépendance ou même avant, avec des partis politiques laïques, très nombreux. Le Parti communiste soudanais, qui a été forgé après la Deuxième Guerre mondiale, est resté très puissant au Soudan, mais aussi des partis arabistes, nationalistes arabes, etc. Donc il y a, malgré les 30 années de dictature, entre guillemets, de ce régime d'Omar el-Béchir, il y a une expérience politique très forte qui n'existe pas en Égypte. Donc il y a d'autre part une société qui est beaucoup plus difficile à contrôler au Soudan, parce que c'est un pays vaste, un pays où les gens ne sont pas liés à la terre comme en Égypte, donc ils n'ont pas ce rapport pyramidal, si je puis dire, au pouvoir qu'il y a en Égypte. Hein. Il y a une sorte d'autonomie des forces, et puis il y a une complexité tribale, ethnique, régionale, confrérique. Le poids de l'islam est tout à fait différent, parce que c'est un islam qui n'est pas scripturaire, qui n'est pas fondé sur des docteurs de la loi, mais sur des confréries qui sont nomades, qui sont paysannes, qui sont très diverses et qui sont beaucoup plus tournées vers le soufisme et vers une religiosité personnelle plutôt que vers l'action politique ou bien une vision de la société.
Donc l'hypothèse de vous voir arriver, si on fait l'hypothèse d'un suffrage universel, d'une élection libre du côté du Soudan, l'hypothèse de voir arriver au pouvoir un homme issu des rangs d'un parti, disons, de l'islam politique, c'est plutôt à écarter dans le cas du Soudan.
Totalement. Je crois que l'islam politique était totalement absent des manifestations et des organisations qui sont manifestées.
Sur l'influence des pays voisins, quand on regarde un peu la photo de famille de cet accord du 17 août dernier à Khartoum, on retrouve sur la photo le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, on retrouve le président kényan Uhuru Kenyatta, on retrouve le Sud-Soudanais Salva Kiir, le Premier ministre évidemment égyptien Mustapha Madbouly, et on a des ministres des Affaires étrangères, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Unis. Comment tout ce petit monde compte peser sur cette transition démocratique ?
Alors, de manière négative pour certains, les pays du Golfe et l'Arabie Saoudite en particulier sont très inquiets de toute expérience démocratique à leurs frontières ou dans la région. C'est la même chose pour l'Égypte. Donc, ce sont des gens qui acceptent cette phase de transition en espérant récupérer la main après coup. Peut-être que les Émirats sont différents de l'Arabie Saoudite de ce point de vue-là, parce qu'eux ont une vision plus économique, hein, du partage de l'Afrique, de cette course aux richesses africaines. Maintenant, les pays africains, l'Éthiopie, qui est le mastodonte, un peu le géant de la région, ne voit que de l'intérêt à avoir un régime représentatif au Soudan, parce qu'il n'y a jamais eu d'animosité ou de problème entre l'Éthiopie et le Soudan. Ce sont des sociétés, des peuples qui se comprennent bien, et le dirigeant éthiopien cherche à stabiliser aussi son environnement pour développer son propre pays. Et quant au Kenya, Et au Sud-Soudan, ce sont des présences, je dirais, un peu de circonstances, mais je crois que tout le monde espère stabiliser. La question est de savoir comment stabiliser le Soudan. Est-ce que c'est avec les militaires ou est-ce que c'est avec les civils? Mais j'insiste sur cette troisième force qui, elle, est une menace pour l'armée autant que pour les civils. Et c'est la raison pour laquelle l'armée et les civils se sont réconciliés, si vous voulez. C'est pour
faire... C'est qu'ils savent combien la menace de cette troisième force est lourde.
Hemeti est derrière le dos du président Borane pour le poignarder, il n'y a pas de doute là-dessus.
Il est soutenu par une puissance extérieure,
L'Arabie Saoudite qui, elle, ne fait pas le détail et cherche à éradiquer toute velléité démocratique dans la région.
Kader Abderrahim, sur le jeu régional et la manière dont les uns et les autres pèsent sur cette transition démocratique du côté du Soudan.
Oui, là je converge, je suis d'accord avec ce que vient de dire Marc Lavergne. On voit que l'Arabie Saoudite et les Émirats jouent un rôle extrêmement important. Ils ne veulent pas voir l'émergence d'un État civil dans cette zone et dans cette région du monde arabe. C'est totalement exclu. C'est très présent, notamment en Algérie. On a pu voir le ministre de la Défense, Gaïd Salah, se rendre il y a quelques mois au Salon de l'Air à Abu Dhabi. Et il a reçu un accueil sur le plan diplomatique et symbolique qui en disait long sur le soutien qu'on lui apporte dans le fait qu'il veut absolument se maintenir au pouvoir, quelles que soient les conséquences et quel qu'en puisse être le résultat. Et par conséquent, c'est vrai que les Émirats, notamment, jouent un rôle extrêmement important. On le voit avec le voisin libyen, où les Émirats livrent des armes directement aux rebelles ou au maréchal Haftar. Et donc, ça empêche l'hypothèse ou la perspective d'une stabilisation du gouvernement. Et par conséquent, on est dans une situation où l'implosion de la Libye provoque elle aussi une instabilité sur le plan régional au Maghreb, ce que l'on n'avait jamais vécu depuis les indépendances dans les années 60.
Kader Abderrahim, alors je vais faire un tout petit rappel sur l'Algérie, février dernier, alors qu'on disait cette société civile un petit peu endormie, voire carrément apathique, des protestations apparaissent et s'opposent à une nouvelle candidature d'Abdelaziz Bouteflika pour un cinquième mandat, un mouvement qui a été d'une telle ampleur qu'en réalité en quelques semaines, en deux mois, Bouteflika démissionne. Alors évidemment, il n'avait pas plus réellement les rênes du pouvoir tant sa santé était mauvaise, mais malgré sa démission, on n'est pas encore dans un processus de transition démocratique. L'armée algérienne continue de confisquer les clés du pouvoir et notamment, effectivement, vous l'avez cité plusieurs fois, ce général Gaïd Salah, chef de l'état-major et qui est devenu en fait le nouvel homme fort du pays. On va l'écouter et puis on en reparle tout de suite.
Il n'est plus question de perdre davantage de temps. Les élections constituent le point crucial autour duquel doit se constituer le dialogue. Un dialogue que nous appuyons. Nous souhaitons qu'il soit fructueux et débarrassé de conditions préalables qui ressemblent à des dictats.
Voilà, on vient d'entendre à l'instant Gaïd Salah, Kader Abderrahim, c'était il y a quelques jours. Quand j'entends cet homme qui a l'air si empressé d'organiser une élection présidentielle, je me dis que voilà un grand démocrate, Kader Abderrahim. Alors pourquoi ce désir d'accélérer ce scrutin présidentiel? Et après tout, pourquoi ce sera un problème? Il va bien falloir l'engager, cette transition démocratique, Kader Abderrahim.
Vous venez de dire les choses. Comme dans quel sens, dans quel ordre prenons-nous les choses? Quelle est la démarche? Est-ce que la démarche? Je crois que, de mon point de vue, les choses sont assez simples en réalité. Il y a une caste au pouvoir incarnée par le général major Gaïd Salah qui veut à tout prix et qui s'accroche à cette idée d'organiser une élection présidentielle. Pourquoi? Parce que c'est le point d'orgue de la légitimité, parce qu'ils n'en ont absolument aucune. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui la présence, la surprésence et la surreprésentation d'un militaire comme le général Gaïd Salah qui s'occupe de tout, qui est ministre de la Justice, qui est ministre de l'Intérieur, qui est chef du gouvernement, qui est ministre des Affaires étrangères, qui emprisonne, à qui mieux, etc., etc. Et qui aussi provoque ou tente de provoquer la société en disant « il faut des élections présidentielles ». Mais de mon point de vue, c'est un piège parce que cette élection présidentielle, elle se fait sur quelle base et sur quoi on va, quel est le projet politique. En réalité, le général Gaït Salah, il est comme tout le monde et comme tous les militaires, il n'a plus de projet politique ou il n'a pas de projet politique alternatif. Donc il s'accroche à cette idée d'une élection présidentielle qui redonnerait de la légitimité à la caste qui dirige et qui tient les manettes du pouvoir. Mmh. Et je crois que c'est extrêmement dangereux. Et il me semble que les Algériens ont parfaitement compris, eux qui veulent d'abord entamer un dialogue sur les bases que l'on pourrait jeter pour aller vers une démocratisation de ce système politique, puisque évidemment, ensuite, on pourra organiser toutes les élections qui seront nécessaires.
Oui, mais sauf qu'on a un problème, Kader Abderrahim, c'est qu'on a, on a personne justement en face. Il y a pas d'opposition. On n'est même pas d'accord sur les modalités de la transition. On a une partie de l'opposition qui dit, qui est d'ailleurs réunie sous un label qu'on appelle Force du Changement, qui milite pour une élection présidentielle très proche, alors sous certaines conditions, mais d'une certaine manière assez proche de l'idée de Gaït Salah. On en a d'autres de l'Alternative démocratique qui veulent une assemblée constituante. On a à l'intérieur de cette opposition des divergences de vues considérables. Est-ce qu'on peut imaginer, Kader Abderrahim, qu'on se mette d'accord au sein de l'opposition, pas sur des figures, mais déjà au moins sur les modalités d'une éventuelle transition.
C'est vrai, vous avez raison. Mais je crois qu'il faut souligner également que c'est un blocage qui se fait dans les deux sens. Blocage qui se fait du côté de l'armée, pour les raisons que je viens d'expliquer, parce qu'elle n'a pas de projet alternatif, elle n'a plus de projet politique, et blocage de la part de la société, de ceux qui manifestent, etc. Parce qu'ils ne parviennent pas à trouver les moyens de la convergence politique pour proposer un projet et le donner à débattre à la société algérienne. Et donc, c'est la situation d'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et la grande difficulté par rapport au Soudan, c'est qu'aujourd'hui, les Algériens, la société algérienne n'a pas d'interlocuteur. Avec qui, aujourd'hui, pourrait-elle débattre, y compris avec un militaire, évidemment, puisque le rapport de force étant ce qu'il est, avec qui on peut discuter? Le général Gaït Salah, il est hors de question, il ne veut pas. Un autre militaire, on n'en voit pas émerger. Par conséquent, c'est une situation de blocage qui se fait dans les deux sens, et c'est ce qui rend la situation algérienne, me semble-t-il, assez singulière.
Marc Lavergne.
Oui, il me semble que au Soudan, la situation effectivement est différente. Le problème n'est pas tant de dialoguer avec l'armée, parce qu'il n'y a pas plus non plus de pensée politique du côté de l'armée au Soudan qu'en Algérie. Mais l'armée est moins prébendière peut-être, hein, dans la mesure où les ressources du pays sont modestes. Hein, l'armée et les services de sécurité absorbent quand même 80% du budget de l'État. Mais c'est vrai que la différence est que l'Algérie est un pays riche de son gaz, donc de rente, et que le problème économique vient au second plan. C'est un problème de répartition beaucoup plus que d'obtenir des ressources. Au Soudan, je crois que les civils sont incontournables dans la mesure où ce sont eux qui peuvent redresser le pays qui est en faillite depuis 2011, depuis l'indépendance du Sud-Soudan, qui a les ressources pétrolières pour l'essentiel. Donc aujourd'hui, cette armée n'est pas... elle se pose pas la question de la démocratie, de sa place. Elle essaye de garder le pouvoir, les manettes, si vous voulez, mais elle est prête à laisser aux civils la gestion du pays et finalement, peu importe qu'il y ait des forces représentatives qui émergent, elles sont aussi, c'est un peu un problème là de génération, de transition au sein des civils entre l'ancienne génération qui était regroupée dans des partis politiques bien identifiés et puis maintenant cette alliance pour la liberté, le changement et puis ces forces syndicales, des professionnels qui ont dirigé le mouvement populaire. Il y a d'une part tout ça doit émerger, doit se structurer pour que ce gouvernement qui va être annoncé tout à l'heure soit autre chose qu'un gouvernement technocratique, soit représentatif de la population. Et puis il y a un autre aspect aussi, qui est la diversité ethnique et régionale, parce que les mouvements rebelles, aujourd'hui, du Darfour, du Nil Bleu, des Monts Nouba, qui se battent depuis 2011, voire depuis 2000 ou avant, pour se voir reconnaître l'égalité des droits dans l'ensemble du Soudan, eh bien, ils ont refusé cet accord.
Ils n'ont pas signé l'accord.
Ils ne l'ont pas signé, et le Parti communiste non plus, qui, encore une fois, a réussi à survivre, non seulement à la chute de l'URSS, mais aussi à cette dictature de 30 ans d'Omar al-Béchir. eh bien, il rassemble quand même certaines aspirations à un changement social et politique. Donc, tant que les rebelles ne déposent pas les armes et que du côté aussi de la transition, on ne propose rien pour ramener la paix dans ces régions marginales et périphériques du pays, eh bien, il y a aussi ça qui est suspendu derrière ce gouvernement à naître. C'est la question de la paix sociale et de la paix politique au sein de l'ensemble du Soudan. Mmh. Donc, des situations, encore une fois, assez différentes de celles qui se posent en Algérie, avec aussi cette question ville-campagne, parce que ce qui s'est révolté, c'est Khartoum, c'est les villes. Alors, il y a des éléments nouveaux là-dedans, mais les campagnes, où sont-elles? Est-ce qu'elles sont gérées par les confréries ou bien par d'autres groupes qui n'apparaissent pas aujourd'hui sur le devant de la scène? C'est aussi une différence peut-être avec l'Algérie.
Kader Abderrahim, j'entendais évidemment toutes les réserves quant à une réelle transition démocratique. Faisons l'hypothèse qu'il y a en tout cas des élections. J'entends aussi parfaitement qu'en réalité aujourd'hui du côté de l'opposition, il n'y a pas véritablement de figure qui porterait un projet alternatif. Mais bon, disons quand même qu'on a des élections. Faisons cette hypothèse. Est-ce qu'on pourrait avoir une victoire politique d'un mouvement, d'un parti, d'un courant islamiste? On se souvient évidemment comment la victoire aux élections de 91 du Front islamique du Salut avait plongé ce pays dans un cycle de violence. Est-ce qu'un retour politique des islamistes aujourd'hui en Algérie est possible?
Alors, je vais être prudent et puis je n'aime pas parler de manière définitive, mais je crois, il me semble, à l'observation de la situation depuis 6 mois, que c'est totalement exclu. Ça ne signifie pas que les islamistes n'existent plus dans la société algérienne. Ça signifie que les Algériens ont aujourd'hui des aspirations qui vont bien au-delà de l'histoire ou de l'affaire culturelle, dont ils commencent à comprendre et à intégrer le fait qu'elle est surtout une affaire personnelle et une affaire intime. De ce point de vue-là, l'Algérie est entrée dans un processus de sécularisation incontestablement. Par ailleurs, je prends 2-3 exemples très concrets. Toutes les manifestations depuis le 22 février ont, évidemment que les islamistes ont essayé de venir se raccrocher à des cortèges, à des manifestations ou à faire entendre leur voix et leurs slogans. À chaque fois, ils en ont été chassés par les Algériens. C'est donc la preuve qu'il n'y a plus aujourd'hui de captation de cet héritage du Front islamique du Salut qui date des années 90 par aucun groupe qui est aujourd'hui politique sur la scène algérienne. Et enfin, il me semble aussi que le principal facteur, c'est le fait que les islamistes ont été intégrés dans l'alliance présidentielle, dans le jeu politique, par le président Bouteflika, ce qui a contribué à la fois à les corrompre et à les discréditer aux yeux des Algériens. Et par conséquent, je crois que cela a achevé de les corrompre, évidemment, mais également de jeter une ombre sur leur crédit réel et sur leur conviction profonde. Et je crois que le fait aujourd'hui que les Algériens se mobilisent, c'est dû essentiellement et principalement à une principale raison, c'est l'hyperconnexion de cette jeunesse du Maghreb qui aujourd'hui dispose de sources d'informations qui sont très différentes. Et ça leur permet de voir à la fois leur société et leur pays d'une manière très différente par rapport à ce qui existait dans la période antérieure.
Mais attendez, Kader Abderrahim,
ça fait une grande différence.
J'entends bien cette idée de la connexion, mais en 2011, les Algériens étaient aussi extrêmement connectés. Or, ils n'ont pas pris part précisément à ce grand mouvement des printemps arabes. On a répété à l'envi, Kader Abderrahim, que cette décennie noire, précisément, avait durablement vacciné l'Algérie de cette expérience démocratique. Qu'est-ce qui explique ce réveil de la société civile algérienne que personne n'attendait? On va évoquer le cas du Soudan, mais que personne n'attendait. Si l'année dernière, on vous avait dit, Kader Abderrahim, qu'il y aurait ce mouvement, vous auriez eu du mal à y croire. Pourquoi ce réveil? La connexion suffit pas. 2011, les gens étaient connectés en Algérie.
Je suis pas d'accord avec vous, Florian Delorme, parce que il faut quand même reprendre les événements et les situations, et on se rendra compte que tous les jours, partout, dans tout le pays, dans toute l'Algérie, les Algériens n'ont jamais cessé de revendiquer, de se mobiliser, de protester, de manifester. Jamais.
Mais ils pas n'ont en 2011. Jamais en cessé. 2011, on n'a jamais essayé de faire tomber le système Bouteflika.
Mais parce que les Algériens étaient convaincus qu'il fallait à la fois procéder par étapes, c'est-à-dire qu'on manifeste ou qu'on proteste pour des raisons qui vous apparaissent probablement totalement dérisoires, mais une question d'adduction à l'eau, de distribution d'appartements, d'abus de pouvoir dans une mairie, dans une préfecture, cela suffisait à mettre en branle un groupe, une partie de la société, pour revendiquer des droits. C'est cela l'exercice de la citoyenneté. Et donc je n'aime pas du tout cette idée selon laquelle les Algériens n'ont rien fait en 2011 parce qu'ils ont toujours, ils n'ont jamais cessé de faire tout le temps pour des choses qui nous paraissent à la fois évidemment très dérisoires mais qui en même temps sont extrêmement importantes pour les Algériens qui ne disposent plus aujourd'hui d'un État au sens de l'État qui protège parce que les lois sont faites essentiellement pour une petite caste qui évidemment en tire profit. Donc je crois que les Algériens ont une notion, une vision de la citoyenneté et de son exercice qui au contraire est extrêmement vivace et qui prouve que la politisation de cette société reste aussi un enjeu extrêmement important et on voit bien d'ailleurs à quel point l'armée aujourd'hui s'accroche à cette idée d'organiser une élection présidentielle parce qu'elle a absolument besoin, puisqu'on n'a plus de légitimité depuis le 9 juillet, plus personne n'est légitime, rappelons-le. Monsieur Gaïd Salah, on ne sait pas au nom de quoi il s'exprime et au nom de qui. Donc, il s'accroche à cette idée de retourner vers la légitimité, ce que les Algériens refusent parce que eux, ils veulent d'abord qu'on engage un dialogue sur un projet politique.
Marc Lavergne, sur cette question de la société civile, au Soudan, elle était déjà extrêmement dynamique, cette société civile. Peut-être pas autant de surprises, en tout cas pour ce qui est de ma part, puisqu'on a entendu Kader Abderrahim qui finalement lui défend cette idée qu'elle était extrêmement vive, et y compris en 2011. Du côté du Soudan, qu'en était-il de la société civile ?
Mais la société civile était atomisée hein, dans la mesure où il y avait une dictature qui, avec un service de sécurité qui était implacable. Mais il y a quand même cette conscience politique qui a subsisté de manière étonnante. Et puis il y a
une
aussi
une aspiration démocratique. Pour reprendre le nom de notre série de la semaine.
En effet, il faut y venir. Je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Mais c'est profondément ancré chez les Soudanais cette idée de liberté. Ce sont des gens qui n'ont pas le même rapport au colonisateurs, par exemple, que les Algériens. Ils n'ont pas le sentiment d'avoir été colonisés par les Britanniques, qui n'ont de fait pas fait du Soudan une colonie, mais un condominium, et où ils étaient assez absents. Donc l'image de la Grande-Bretagne est assez, je dirais, positive et elle a formé les élites soudanaises et les a formées aussi à l'action politique. Alors, il y a eu, en 2011, le Soudan n'a pas participé au soulèvement démocratique dans l'ensemble du monde arabe, mais il faut se souvenir que c'est l'année où le Sud-Soudan a pris son indépendance, dans la liesse générale. Donc, ce n'est qu'en 2013 que les jeunes sont descendus dans la rue et ils ont été brutalement réprimé à l'époque par le régime. Alors aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est une jeunesse éduquée, c'est une jeunesse urbaine qui est descendue dans la rue. Alors, est-ce que c'est une société civile constituée et articulée ? Peut-être pas encore, mais grâce aux réseaux sociaux, certainement, à l'intérieur du Soudan et avec le monde extérieur, et aussi avec cette diaspora soudanaise qui n'existait pas autrefois, à la fois les migrants qui viennent traverser la Méditerranée, mais aussi toute l'élite qui est partie travailler dans les pays du Golfe, aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, il y a un Soudan qui n'était pas présent physiquement à Khartoum, mais qui constitue une société civile, un engagement de soutien à ce mouvement populaire.
Et les femmes, on a beaucoup insisté au moment des manifestations sur le rôle des femmes pour dire combien elles avaient été importantes pour renverser le pouvoir d'Omar el-Béchir. Est-ce qu'elles sont toujours présentes dans la transition démocratique ou est-ce que maintenant qu'il s'agit d'affaires politiques, eh bien, c'est une affaire d'hommes ?
Non, les femmes sont effectivement dans la société soudanaise. Selon les tribus et les régions, c'est un petit peu différent, mais elles ont toujours occupé une place très importante parce que.
Mais dans la transition, la société, là, dans le conseil.
Dans la transition, elles ont été très présentes dans la rue. On l'a bien vu. On l'a souligné avec beaucoup d'étonnement, alors que c'était quelque chose pour les Soudanais d'assez banal. Maintenant, dans la déclaration constitutionnelle, on insiste beaucoup sur cet aspect, mais je pense que c'est à usage externe, à usage des médias, des opinions publiques occidentales, que l'on met l'accent sur la place des femmes dans la société, dans l'action politique. Il y a deux femmes au Conseil souverain, dont une est copte, et tout ça me fait penser que c'est un peu un gimmick, c'est-à-dire que c'est à usage externe. Dans la mesure où les coptes ne sont pas une communauté nombreuse, ce sont des petits commerçants qui ne font absolument, ce sont des chrétiens, mais qui sont très respectés parce qu'ils sont, bon, ils sont d'origine égyptienne depuis un siècle, mais ce sont des gens qui sont, à la différence des chrétiens du Sud-Soudan, antérieurs à l'islam. Donc ils sont tout à fait légitimes, cela dit, ils n'ont aucun poids politique et les femmes en auront un, mais là c'est vraiment pour faire envoyer une image au monde extérieur.
On était avec vous Marc Lavergne et vous Kader Abderrahim dans cette semaine consacrée aux aspirations démocratiques du Soudan à l'Algérie, reprendre le pouvoir à l'armée, et on va parler tout de suite de la Tunisie.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Je sentais que la Tunisie est vide.
Monsieur le BG, c'est le père de toute la Tunisie. Hein. Il n'y a pas de mots qu'on peut dire ou expliquer.
J'ai le cœur gros, bien qu'on n'a pas été toujours sur la même voie, mais c'est mon président, c'est mon pays, c'est mon drapeau.
C'est notre père. Notre papa nous trouve quelqu'un comme lui.
Voilà, le président Béji Caïd Essebsi qui est décédé le 25 juillet dernier. La Tunisie va devoir donc retourner aux urnes pour des élections générales présidentielles et législatives. L'occasion de faire un petit état des lieux du processus de démocratisation du pays 8 ans après la chute de Ben Ali et de mesurer aussi peut-être l'ampleur des mouvements pro-démocratie. En tout cas, ce qu'il en reste. Bonjour Khadija Mozen Finan.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous en direct par téléphone depuis Tunis. L'enjeu de cette élection, Khadija Mozen Finan, est-ce qu'il y a un risque politique qui pourrait peut-être compromettre le processus de démocratisation emprunté par le pays depuis la chute de Ben Ali? On l'a souvent répété, la Tunisie, c'est un peu l'exception, la bonne élève, c'est celui qui a réussi finalement à s'engager sur le processus, sur le chemin de la démocratisation, même si tout n'est pas parfait. Est-ce que là, cette élection-là constitue un risque?
Elle constitue un risque comme chaque fois qu'il y a des élections et plus particulièrement lorsqu'elles sont libres et ouvertes comme c'est le cas aujourd'hui. Alors le risque est d'autant plus grand que Béji Caïd Essebsi était, avec ses défauts et ses qualités, un des derniers membres ou en tout cas pierre fondateur de la Tunisie indépendante, de l'histoire de la Tunisie indépendante, et aujourd'hui on va un peu vers l'inconnu, vers des candidats qui sont d'un type nouveau, avec des émergences de populisme par exemple, qui n'était pas le cas lors des précédentes élections en 2011 et 2014.
Mais c'est donc aussi ça la démocratie, c'est permettre à tout le monde, évidemment en remplissant un certain nombre de critères, de participer. Je rappelle, 26 candidats pour cette présidentielle, il y a par exemple le Premier ministre Youssef Chahed, il y a le vice-président du parti islamiste Ennahda Abdel Fattah Mourou, il y a l'ancien président tunisien Moncef Marzouki, il y a un homme d'affaires, il va falloir qu'on en reparle, Nabil Karoui, qui lui est un candidat hors parti, voire carrément anti-système. On a deux femmes.
Il a maintenant son parti politique.
On a deux femmes. On a un avocat ouvertement homosexuel. C'est une diversité de candidatures qui est intéressante. C'est une bonne nouvelle pour la démocratie tunisienne.
Alors c'est une très bonne nouvelle pour la vitalité de la démocratie. Et ce qui complète vos propos, c'est que à l'intérieur des grandes formations, il y a des fissures. Et ça aussi, c'est un signe de dynamisme. Par exemple, Ennahda, aujourd'hui, présente plus d'un candidat. Et le candidat qui la représente, c'est-à-dire Abdel Fattah Mourou, n'était pas le choix du guide. Donc effectivement, le guide est probablement mis en minorité au sein même de sa propre formation. Et ça aussi, c'est un risque, c'est un signe d'avancée de la démocratie. On a exactement le même phénomène dans le camp qu'on appelle moderniste, c'est-à-dire des fissures, des nouveaux partis qui se sont créés.
Vous parliez de populisme, alors il va falloir nous éclairer, peut-être Faisiez-vous référence à Nabil Karoui, qui n'est pas n'importe qui, puisque alors, c'est un homme d'affaires, un propriétaire d'une chaîne de télévision, qui est donc candidat, et qui se trouve faire la course en tête, là, quand on regarde les sondages. Il se trouve qu'il y a quelques jours, il a été placé en détention provisoire, dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent. Donc, il y a plusieurs questions derrière tout ça. D'abord, est-ce que c'était à lui que vous pensiez quand vous parliez de populisme? Et puis surtout, comment interpréter cette détention provisoire? Est-ce que c'est le signe que la justice tunisienne fait bien son travail de façon totalement indépendante? Ou est-ce que c'est une manière de barrer la route à un candidat un peu hors système qui gêne?
Non, je crois que effectivement il y a un élan démocratique, mais on n'en est pas du tout à la séparation des pouvoirs. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler en Tunisie de justice complètement indépendante. C'est un vœu, c'est une ambition, c'est un horizon, mais on n'est pas dans ce cas de figure. Très probablement, il a été mis à l'écart parce qu'il gênait, et parce qu'il gênait, et il gêne depuis qu'il est placé numéro un dans les sondages. Ça aussi, c'est un phénomène nouveau. Les Tunisiens croient beaucoup dans les sondages. Les sondages sont nombreux. Ils sont faits par des approches différentes. Et on a envie de croire en Tunisie, en tout cas, en ces sondages. Donc, effectivement, Nabil Karoui, qui est un mania de la communication et de l'audiovisuel, a travaillé sous Ben Ali. Donc, sa chaîne existe depuis 2007. Et il s'est mis au service de la révolution et de la Tunisie post-révolutionnaire après 2011. Alors, effectivement, il n'a jamais payé ses impôts. Ça ne gênait personne. Il a pratiqué le populisme en redistribuant des ressources dont on ne sait pas exactement d'où elles viennent. Ça n'a jamais gêné personne et aujourd'hui, il devient un concurrent sérieux. Et il devient un concurrent sérieux et il fait émerger un phénomène nouveau qui est le populisme qu'on ne connaissait pas en Tunisie parce qu'il s'adresse, si vous voulez, aux personnes qui sont des oubliés de la transition et les régions et les disparités régionales qui sont aussi les oubliés de cette transition. Alors, il peut d'autant plus le faire qu'il a sa propre chaîne, ou en tout cas qu'il est l'actionnaire majoritaire de sa chaîne, n'est-ce pas, et qu'il peut médiatiser à l'envi. Donc, il a réussi à avoir finalement un capital de sympathie qui s'est transformé en capital politique parce que il a compris ce qu'attendaient les gens, c'est-à-dire des réponses à leurs conditions de vie, des réponses à leur mal-être qui est à la fois économique et social.
Donc on sent là ce que vous nous expliquez, c'est-à-dire l'émergence, et ça c'est un phénomène nouveau, d'une forme de populisme qui débarque du côté de la Tunisie. Qu'en est-il de l'islam politique? Vous avez expliqué qu'il y avait des dissensions du côté des Nahda avec plusieurs candidats. On se souvient évidemment des élections remporté en 2011 par Ennahda, même s'il y avait eu derrière évidemment des crises assez profondes avec une opposition extrêmement forte, au point d'ailleurs d'être contraint de céder sa place et de faire une alliance avec le parti de l'ancien président Essebsi Nida Tounes. Comment est-ce que vous les voyez aujourd'hui, l'avenir politique? Est-ce qu'ils sont en mesure, je ne sais pas, pourquoi pas, de remporter cette présidentielle et de barrer la route à ce Nabil Karoui?
Alors, je ne sais pas s'ils sont en mesure de barrer la route à Nabil Karoui. Nabil Karoui, juste pour compléter ce que je disais sur le phénomène populiste, le phénomène populiste, il émerge aussi parce qu'il y a un déficit d'autorité, un déficit de bon fonctionnement de la gouvernance. Et les islamistes d'Ennahda ont pris part à justement cette mauvaise gouvernance et ils ont mal gouverné lorsqu'ils étaient au pouvoir de 2011 à 2014. Par la suite, ils ont passé un accord qu'on appelle le compromis historique avec les modernistes, mais les Tunisiens se demandent aujourd'hui quel était le contenu, qu'est-ce qu'ils ont fait finalement, qu'ont fait les deux factions, les deux grandes factions de ce compromis. Et donc le bilan de Nahda politique n'est pas très bon. Et sur le plan international, ils sont quand même assez isolés. Donc aujourd'hui, il y a ce facteur qui fait que très probablement, ils ne réussiront pas l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, ce n'est pas leur vœu premier. Ils ont présenté un candidat parce que le calendrier a été chamboulé par la mort du chef de l'État. Mais je crois qu'ils visent effectivement la présidence du Parlement et ils veulent muscler le régime parlementaire. Ça, c'est une chose qui est importante, mais je voudrais dire aussi que depuis quelques années, et depuis 2011, ils ont progressé, ils ont changé, et ils se présentent aujourd'hui comme un parti démocrate et non comme un parti islamiste.
Oui, oui, ils n'aiment pas cette dénomination, pas de parti islamiste, mais parti musulman-démocrate. Toute dernière question, mais qui est vraiment importante, Khadija Mozanfinan, sur laquelle je voudrais vous entendre, et je vous demanderai une réponse courte, parce qu'on arrive presque au terme de cette émission. Vous qui êtes aujourd'hui à Tunis, est-ce que la question de la démocratie, 8 ans après la chute de Ben Ali, est encore un sujet? Est-ce qu'il y a une aspiration démocratique? Est-ce que les gens disent on veut plus de démocratie? Ou est-ce qu'au fond, c'est pas un sujet? Est-ce qu'on veut, c'est du travail, c'est des infrastructures? C'est cette question de la démocratie?
Je crois qu'ils veulent les deux. Et s'ils devaient hiérarchiser, ils mettraient l'économie et les questions sociales avant la démocratie. Pour eux, la démocratie et la liberté n'a pas changé, n'a pas modifié la Tunisie. Et c'est pas suffisant.
Merci beaucoup Khadija Mozanfinan d'avoir été en direct avec nous depuis Tunis. Je rappellerai que vous êtes politologue, enseignante à Paris 1 et journaliste à Orient 21 et que vous êtes co-auteur avec Pierre Vermeeren de Dissident du Maghreb qui était paru chez Belin. Un grand merci à vous. Avec cette voix absolument magnifique que l'on se quitte. C'est une chanteuse d'origine soudanaise, Yasmine Mohamed, qu'on entend au Night Train. C'est joli, hein, Marc Lavergne, hein, c'est très très beau.
Ça dit beaucoup de choses aussi. Ce style musical n'est pas arabe, c'est un mélange d'Afrique et du monde arabe.
On mettra la référence sur le site de la page sur la page de Culture Monde sur Internet. Merci infiniment à Kader Abderrahim qui était avec nous en duplex de Rouen. Je vous salue amicalement, cher Kader Abderrahim. Je rappelle que vous êtes auteur de Géopolitique du Maroc qui était paru aux éditions Bibliomonde. Et je remercie également les techniciens qui ont permis de faire la liaison jusqu'à nous. Merci Marc Lavergne de nous avoir éclairé sur ce qu'il se passe au Soudan. On était très très optimistes en début d'émission. On comprend qu'il faut être un tout petit peu plus mesuré. Merci en tout cas infiniment. 11h presque 52 minutes. L'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Qui continue de parler de démocratie justement. Jusqu'à une période récente, Brice, l'histoire de la démocratie se confondait souvent avec celle de l'Europe. Et c'est de cette manière, en tout cas, qu'on l'écrivait.
Oui, et sur un mode, avouons-le, triomphal, celui d'une glorieuse odyssée. Partie d'une cité-état grecque 500 ans avant notre ère, l'aspiration à la liberté aurait germé durant bien des siècles avant de s'épanouir enfin en tant que gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et cette formule définitive était destinée, disait-on, à se répandre au monde entier à travers la juste aspiration des peuples à la liberté. Eh bien, on va le voir. L'ouvrage récent de John Donne, intitulé « Libérer le peuple, histoire de la démocratie », adopte un point de vue bien différent. Et ce changement de perspective en dit beaucoup sur notre époque. Il témoigne de deux phénomènes. D'abord, le décentrement de l'Occident, la provincialisation de l'Europe. Il est dorénavant malséant et politiquement peu correct d'écrire que ce sont les Athéniens qui ont inventé la démocratie durant l'Antiquité. Castoriadis doit se retourner dans sa tombe. Ce titre de gloire, pense-t-on, devrait être mieux partagé. Quant à la Déclaration des droits britanniques de 1689, la Constitution américaine de 1788 ou notre Déclaration des droits de l'homme de 1789, qu'ils aient pu constituer des jalons aussi décisifs qu'on le disait autrefois, eh bien c'est perçu aujourd'hui comme une forme d'occidentalocentrisme. Consultez donc la page Wikipédia en anglais « History of Democracy ». Elle est fort bien rédigée, mais elle est surmontée de cet avertissement. La neutralité de cet article est questionnable parce qu'il comporte un biais systématique. Il traite principalement de l'Europe et ne représente pas un point de vue mondial sur le sujet. Ce qui du reste est inexact, car ses auteurs, ayant pris soin de calmer les campus, ont consacré des paragraphes entiers au système d'assemblée ayant régi le sous-continent indien ou encore au conseil des chefs de tribu chez les Iroquois. Mais outre cette volonté de minimiser le rôle historique de l'Europe, qui accompagne d'ailleurs comme une ombre son déclin sur la scène de l'histoire contemporaine, il y a ces doutes nouveaux sur le destin même de la démocratie, sur les privilèges que lui vaudrait sa supériorité éthique. L'arrivée au pouvoir, dans le cadre des procédures démocratiques, après tout de personnages aussi embarrassants que Donald Trump, Matteo Salvini ou Boris Johnson, alimente une méfiance toute nouvelle. Comment des nations aussi éclairées ont-elles pu se choisir de pareils dirigeants? Face à ces bouffons, les hommes à poigne, nouveaux autocrates, les Poutines, les Erdogan, les Bolsonaro, indifférents, eux, aux libertés publiques, paraissent dominer la situation. Serait-il mieux adapté à l'époque? En développant impunément leur réseau au sein même des démocraties, ils confirment paradoxalement la thèse selon laquelle ces dernières sont décidément fragiles et vulnérables, puisqu'elles se laissent miner ainsi de l'intérieur par des puissances étrangères.
Mais ce livre, Brice, Libérer le peuple, histoire de la démocratie, en quoi peut-on dire qu'il est significatif de ce changement dans la manière dont on écrit l'histoire de la démocratie?
D'abord, prévient John Donne, il entend considérer dans son livre la démocratie non pas de l'intérieur et selon ses propres standards, mais d'en haut, comme il dit, et en refusant d'accorder des privilèges particuliers à l'Europe et même à l'Occident. Du coup, la démocratie lui apparaît comme un phénomène récent, réversible et largement fondé sur des malentendus. Il n'y a pratiquement rien de commun, selon John Donne, entre la manière dont se gouvernaient les anciens Grecs et nos régimes politiques à nous. À ses yeux, d'ailleurs, l'emploi du vieux mot grec « démocratia » serait même une imposture. La démocratie athénienne est née comme un expédient politique destiné à régler le conflit qui opposait les propriétaires terriens aux familles pauvres et endettées. C'est ce qu'il rappelle, le fondateur Solon aurait libéré les pauvres de leurs dettes, mais en leur refusant le partage des terres. Ensuite vient Clisthène, qui renverse les aristocrates, et il aurait doté Athènes, c'est lui, de ses fameuses institutions dites démocratiques, les premières dans l'histoire mondiale. À savoir qu'un petit nombre de citoyens actifs, 30 000 hommes seulement sur 300 000 personnes qui vivaient dans la cité-état athénienne, c'était ces 30 000 hommes qui désignaient un conseil des 500, la boulée. 50 autres tirés au sort parmi les 10 tribus constituaient l'organisation sociale d'Athènes et ils formaient un conseil. Or, nous autres modernes, nous aurions usurpé ce mot « démocratie ». Aux yeux de John Donne, il s'agit même d'un abus de langage. Ce que nous appelons démocratie, c'est un transfert de pouvoir à une petite élite qui va gouverner durant une période définie en notre nom. Et nous faisons, je cite John Donne, « notre choix dans un menu que nous ne pouvons pas modifier ». Une idée qui aurait fortement déplu aux Athéniens, habitués à régler leurs affaires les plus importantes entre citoyens sur l'agora.
Merci beaucoup, cher Brice Couturier. Moi aussi, il y a un livre dont je voudrais vous parler, Brice Couturier. Je l'ai sous les yeux. Il est titré 1969, année fatidique. Tout est parti de là. Il est d'un certain Brice Couturier. J'en parle parce que vous n'allez pas le faire. Donc moi, j'en parle.
Merci beaucoup.
Il sort aujourd'hui. Et tout est parti de là. Tout est parti de quoi? Alors là, je vais vous faire écouter quelque chose, Brice, et vous allez me dire pourquoi tout est parti de là.
Hey, we did it, man. We did it. We're rich, man. We're retired in Florida now, mister. You know, Billy, we blew it.
We blew it.
Henri Fonda. Voilà. Qui vient de mourir la semaine dernière.
Peter Fonda, qui vient de décéder il y a quelques jours. Ce livre, votre livre 1969, commence là-dessus. C'est un concentré d'esprit d'époque. Pourquoi Easy Rider 1969?
Easy Rider parce que c'est le constat d'un échec formidable et d'une désillusion totale concernant la contre-culture et les promesses dont elle était riche tout au long des 60s.
Merci beaucoup en tout cas Brice pour ce livre que je vais commencer à lire, 1969, une année fatidique, tout est parti de là, édition de l'Observatoire, ça sort aujourd'hui, je sais ce que ça vous a demandé d'énergie, de temps, etc. etc. Je me régale déjà à l'idée de le lire, un grand merci à vous cher Brice Couturier.